Alors, vous vous souvenez qu'on est dans une série qui concerne un petit peu donc l'histoire d'Israël après David, après Salomon, une histoire qui, dans un sens, a atteint un point culminant avec Salomon. C'est magnifique. On dirait que voilà, tout ce que Dieu a promis, enfin, ça arrive. Et puis, patatras, on a commencé à voir ça déjà depuis 2 fois. Tout s'écroule et la suite de l'histoire, je vais faire un spoiler, attention, c'est la fin, c'est l'exil, d'accord? C'est le peuple d'Israël qui va être emmené loin de la terre promise, loin de Jérusalem, loin du temple, loin de la présence de Dieu, on va dire, dans des pays étrangers. Donc le royaume de Juda en Babylonie et avant ça, 100 ans avant ça, le royaume d'Israël, donc au nord, chez les Assyriens. Si on va pas regarder tous les rois en détail, parce que ce serait en fait tellement long, mais il y a plein de choses à dire et j'ai dû faire des choix, etc. Si vous me connaissez, vous savez que c'est compliqué pour moi, mais j'espère que ça va marcher. Juste pour vous faire un petit résumé de là où on en est, donc on avait vu Jéroboam qui commence à instaurer un culte païen, un culte humain, sa propre invention, sa propre projection de qui devrait être Dieu, plutôt que d'adorer le Dieu véritable. Qui s'est révélé, qui a parlé, qui a dit qui il était, qui a dit comment il voulait être suivi. Et donc, Dieu avait dit, si tu m'obéis, je vais affermir ton règne. On voit Jéroboam qui n'obéit pas, et donc ce qui devait arriver arriva. Il n'y a pas trop de surprise. Dans un sens, bah, toute la suite des rois après lui, parce qu'ils commettent aussi le même péché que Jéroboam, parce qu'ils persévèrent dans l'erreur de Jéroboam eux-mêmes, se succèdent et sont des mauvais rois. Donc, vous pouvez lire ça dans les chapitres qui suivent. Et après qu'on ait été dans des hauteurs très spirituelles, on va dire, avec David et Salomon et la construction du temple, waouh, c'est génial. On arrive à un fameux roi, mais ça existe en anglais, mais pas en français. Infameux, quoi. Pas fameux du tout, quoi. Le roi Akab. Le roi Akab, il s'est marié avec une femme qui est pas israélite, qui adore aussi, elle aussi des faux dieux et qui porte en fait dans le royaume du Nord. Alors les veaux d'or c'était ça. Maintenant c'est puissance 10 quoi, avec le culte de Baal. Baal c'est le nom du dieu des Tyriens, des Sidoniens, des Phéniciens, etc. Le dieu de la fertilité, le dieu du tonnerre, le dieu de la pluie, le dieu qui fait pousser les cultures, le dieu qui rend les femmes enceintes, le dieu qui fait qu'il y a la vie, le dieu qui guérit. Donc pour ces peuples-là, de là, c'était le Dieu, le grand Dieu, parmi d'autres, bien sûr, parce que c'est la vraie religion seulement qui considère qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et la Bible le passe assez rapidement, en fait, sur tous ces épisodes qui amènent jusqu'à Akab. Donc, c'est pas un livre d'histoire dans le sens très précis. D'ailleurs, plusieurs fois dans les Rois, vous pouvez lire, bah, si vous voulez lire l'histoire dans le détail, aller voir les annales ou les chroniques de tel ou tel roi. Bah, nous, on les a plus, mais à l'époque, s'ils avaient envie, ils auraient pu voir tous les faits et gestes des rois. Mais la Bible, elle se concentre pas pour nous dire, OK, voici l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, tous les faits historiques, mais elle veut donner un sens. Et donc, quand c'est important, elle s'arrête, et quand c'est pas important, elle va plus vite. Elle dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir au niveau spirituel. Et donc, on arrive au règne de Akab, de Jézabel. Si on devait dire les choses en fait très directement et crûment, c'est voilà Satan qui s'installe en Israël. C'est vraiment le culte abominable aux yeux de Dieu. C'est vraiment une période noire. Mais il faut pas penser que tout le monde est en train de subir ça de façon mauvaise. En fait, non. En fait, le royaume prospère. Akab, il a fait des accords commerciaux. Donc, un point de vue purement humain, la vie est pas mal. Parce que il y a prospérité matérielle. Il n'y a pas d'ennemis, puisque justement, les ennemis, on a fait alliance avec eux, avec leurs idoles. Donc, il n'y a plus de différence, en fait, avec eux. Et tout est basé sur le commerce. Donc, c'est plutôt pas mal. Sauf que Dieu, lui, il voit pas ça, les choses de cette manière. Et il va maintenant intervenir pour montrer qu'une vie sans souci apparent, c'est pas la vraie vie s'il n'y a pas le vrai Dieu. Et d'un coup, le récit se ralentit, et il se met à zoomer et sur plein de chapitres maintenant, sur tous les chapitres de 17 jusqu'à la fin du livre des Rois, il y a un personnage qui ressort, un certain Élie. Je vous invite à lire avec moi juste le verset 1 du chapitre 17. Élie le Tishbite Donc c'est une ville qui s'appelait Tishbé, donc voilà, il s'appelait Élie qui venait de Tishbé. Un des habitants de Galaad dit à Akab, donc le roi de l'époque, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » Et c'est exactement ce que Dieu avait dit au Sinaï. Il avait dit « Si vous obéissez à mes commandements, les 10 commandements et toutes les règles et les prescriptions qu'il a données au Sinaï, je repousserai vos ennemis, je ferai pleuvoir la pluie, vous aurez pas de soucis à vous faire, je vais prendre soin de vous. Mais si vous désobéissez, alors j'enverrai les sauterelles, j'enverrai la sécheresse, il y aura la famine. » Et ça, c'était juste le premier avertissement. Et puis, justement, dans le Sinaï, il dit aussi, si vous persévérez malgré tout ça, alors ça ira jusqu'à l'exil. Alors, pour le moment, c'est les premiers avertissements de Dieu qui viennent en avant. Et Dieu dit qu'il va arrêter de faire pleuvoir sur Israël. On n'a pas le temps de regarder dans le détail. Comme j'ai dit, on va regarder Élie et qu'est-ce qu'il a à nous apprendre sur la prière. Donc Élie annonce ça au roi Akab, et puis ensuite il part et reçoit des ordres de la part de Dieu qui l'amène jusqu'à une ville du nom de Sarepta. C'est une ville qui est en dehors d'Israël, qui est justement dans le territoire des adorateurs de Baal, les Sidoniens, là d'où vient Jézabel. Et quand il arrive à Sarepta, dans ce village, Dieu lui annonce qu'il a ordonné à une veuve de prendre soin de lui. Donc en plein début de famine, de sécheresse, en fait, la personne la plus vulnérable, c'était cette veuve-là, païenne, dans un pays étranger, pas au premier titre concernée par les promesses de Dieu. Et voilà que Dieu envoie Élie vers cette femme. Ça paraît fou, les moyens que Dieu utilise souvent. Et alors on voit que Dieu prend soin d'elle, Dieu prend soin d'Élie, son serviteur, pour qu'il puisse continuer son ministère. Dieu donne des instructions et on lit au verset 15. Elle partit, après qu'elle a entendu Élie lui dire ses instructions, elle se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, et si vous voulez savoir ça veut dire quoi, pendant longtemps, ça veut dire au moins 3 années, d'accord? Elle a eu de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie, de façon miraculeuse. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans sa cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Voilà. On est enthousiasmé. On se dit, c'est génial. Voilà. Ça, c'est le Dieu qu'on aime bien et qu'on connaît bien comme ça. Et on voit une femme étrangère qui obéit, qui se soumet à Dieu et à sa parole plus facilement que le roi, qui est pourtant informé, qui a lui devant ses yeux le texte de la loi qu'il a dû recopier. Il a des prêtres, des personnes qui sont capables de lui dire ça. Et on voit une femme étrangère qui obéit et se soumet à Dieu plus facilement que le peuple d'Israël dans son ensemble. Et on se dit, ben voilà, l'histoire est bien partie, c'est magnifique. Mais en fait, les difficultés de la veuve ne sont pas tout à fait terminées, ni celles d'Élie. Et je vous invite à lire alors le verset 17. Après ces événements, le fils de cette maîtresse, de cette veuve, donc, tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Peut-être que vous comprenez bien cette parole de la veuve, parce que dès qu'il nous arrive quelque chose qui est pas dans le sens que nous on aimerait, dès qu'il y a une épreuve compliquée, tout de suite on se met à chercher qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et on s'attend toujours à ce que Dieu soit en train de punir immédiatement le moindre faux pas qu'on a fait. Et bien qu'on sache que Dieu est un Dieu bon, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui aime quand on vient vers lui, dès qu'il nous arrive une épreuve, on est toujours dans le doute, est-ce que ça dépend de moi? Si moi, j'ai fait quelque chose de mauvais, alors Dieu va, je vais avoir le retour de bâton dans les 5 minutes qui viennent, quoi. Peut-être ça vous est familier et vous allez voir que c'est pas tout à fait comme ça, n'est-ce pas, que Dieu est. Peut-être si vous êtes en train de découvrir qui est Dieu, vous pouvez être surpris. Pourquoi Dieu, d'un côté, soutient et sauve, et il commence à délivrer cette femme non seulement physiquement de la mort physique, parce qu'elle n'aura plus rien à manger, mais aussi de la délivrer du culte de Baal. Il est en train de se révéler à quelqu'un, de lui montrer non seulement quelque chose pour qui est bon pour cette vie maintenant, mais pour la vie éternelle. Et voilà, pendant des jours et des jours et des jours, il fait du bien à cette femme, et puis voilà, d'un coup, paf, il lui retire son fils. Est-ce que c'est un dieu capricieux, justement comme les dieux païens, on ne sait jamais sur quel pied ils sont, sur quel pied danser avec eux. Peut-être vous êtes surpris, mais si on considère Dieu comme Dieu, il y a un sens où Dieu a parfaitement le droit de faire ça. On l'a chanté, Job l'a reconnu aussi. Il donne, il reprend. Qui pourrait contester ses décisions? Qu'est-ce que nous avons que nous avons produit par nous-mêmes? Rien, n'est-ce pas? La Bible affirme, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Si on mangera ce midi, c'est parce qu'on l'a reçu de Dieu. Des petites choses comme avoir un époux, ou avoir des enfants, ou avoir la vie, le pouvoir, la santé, tout ça, ça vient de Dieu. Et même aussi, les épreuves sont des choses que Dieu donne dans un sens. La Bible, elle est honnête, elle parle de la réalité, on est tous passés par là, on se dit, mais quel péché ai-je fait pour que Dieu me châtie? Mais en fait, la Bible, elle est réaliste et elle ne nous donne pas forcément toutes les explications. Et si on ne comprend pas pourquoi, en même temps, elle nous donne tout ce dont on a besoin pour continuer à faire confiance à Dieu. Dieu, lui, il sait pourquoi il fait les choses. Dieu, lui, est toujours loyal. Dieu, lui, est toujours vrai. Dieu est toujours celui qui reste à vouloir faire ce qui est bien. Élie, il sait ça. Alors regardez au verset 19, il se laisse pas abattre par cette situation dramatique. Et je veux pas nuancer trop la situation dramatique, elle a quand même perdu son fils. Il meurt. Et voilà Élie, qu'est-ce qu'il fait au verset 19 et suivant. Élie lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme. Il le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Regardez verset 20. « Puis, il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, et regardez, c'est la même phrase, verset 21. Il fit appel à l'Éternel et dit, « L'Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. » Élie, il arrive, comme cette femme, à des points où on comprend plus rien, où il semble qu'il n'y a plus rien d'autre, qu'il n'y a rien à faire. Mais pas pour Élie. Élie, il prie. Il fait appel à l'Éternel, son Dieu. Il fait ça parce qu'il le connaît très bien, ce Dieu-là. Il le fait une première fois en se plaçant dans la peau de la veuve, en reconnaissant ses questions, ses besoins, en s'identifiant à elle dans un sens, en présentant les choses sous son angle de vue à elle. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Seigneur? Regarde la tristesse, la détresse de cette femme. Et moi, je suis aussi touché dans mes tripes, comme elle, par ce qui est en train d'arriver. Son cri à elle, il devient aussi son cri à lui. Il sait pas non plus pourquoi Dieu fait ça, mais il intercède auprès de Dieu, comme s'il était lui-même atteint. C'est comme ça que Élie commence à prier. Je me demande si on prie assez souvent comme ça, dans notre assemblée. De façon vraiment concernée. Vraiment en train de répandre notre cœur. Vraiment en train de s'associer avec ceux et celles qui sont l'objet de nos prières. Vraiment en train de saisir les situations qui sont devant nous et qui demandent notre intercession devant Dieu. Si on faisait ça plutôt que d'expliquer à Dieu comment il devrait agir, ça serait différent. Peut-être si on priait comme ça plutôt que de dire à l'autre de façon interposée par notre prière, en fait on n'est pas vraiment en train de parler à Dieu, des fois on dit des choses à d'autres, peut-être qu'il y aurait des choses différentes. Quand on prie, on ne s'approche pas pour dire à Dieu ce qu'il doit faire, on ne parle pas juste entre nous, mais on s'approche du trône de Dieu. Et on regarde Élie. Et je crois que la Bible, elle nous appelle à imiter Élie, à nous approcher en répandant notre cœur, en nous identifiant avec les situations. Et puis vous voyez le changement dans la deuxième façon dont Élie prie. Verset 21, il prie avec assurance dans le Dieu qui est capable de faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Il y avait assez de sandwich là pour que... Ah, Dieu, il est quand même fort. Il voulait être sûr qu'on a bien compris que c'est vraiment au-delà, infiniment, de tout ce que nous, on peut imaginer. Notre incapacité, l'incapacité de cette veuve qui perd son fils, ce ne sont pas des impasses si nous nous tournons vers le Dieu qui est capable de tout. Élie ne fait pas de la magie. C'est pas un truc qu'il a appris à l'école de prophètes. Ah ouais, si t'as un mort devant toi, ben, tu t'allonges trois fois devant lui, et puis c'est bon, c'est réglé. Tu dis une petite formule, abracadabra, et hop, non, non, non. Dans cette période de l'histoire, on voit souvent les prophètes faire des signes symboliques où justement ils s'identifient avec la situation de façon très physique. Mais il n'y a pas une formule à découvrir, à décrypter au travers de ce passage que après nous on utilise comme ça, comme une recette quand on en aura besoin. Élie est un homme comme nous, impuissant devant la mort, mais qui a confiance, une confiance ferme, une confiance solide dans le Dieu qui sauve. Alors il prie, et Dieu écoute. Vous voyez verset 22, trois mots, hyper simples. L'Éternel écouta Élie. On n'a pas deux mots, quoi. Et l'Éternel écouta Élie. Il y a un mort là, Élie prie, l'Éternel écouta Élie. Parfois, Dieu nous enferme dans nos incapacités pour que nous apprenions peut-être à prier, à dépendre de lui davantage. La prière, c'est un des moyens de grâce dont Dieu veut que nous nous servions devant les difficultés, les questions, les impossibilités de la vie. Viens, venez, venons ensemble avec confiance devant Dieu dans la prière. Non pas parce que nous, on est capables, mais justement parce que nous ne le sommes pas. Mais Dieu, lui, est capable et il écoute quand on prie. Extraordinaire. Dieu écoute les prières. Et si c'est une leçon que vous avez apprise, certainement, c'est une leçon pour laquelle on a besoin souvent de revenir. Comme cette femme le découvre, Dieu n'est pas un Dieu capricieux comme les dieux païens, mais sa parole demeure fiable en tout temps. Même dans notre perplexité, même devant les situations impossibles, nous pouvons compter sur Dieu, qui lui, il sait, qui lui conduit, qui lui pourvoit. Il est un Dieu loyal. Dans cette vie, comme dans la vie au-delà de la mort. Est-ce que tu veux pas faire confiance à ce Dieu-là? Ce Dieu-là, c'est le même que le Dieu qui a entendu l'intercession de Jésus, notre Seigneur, pour la veuve de Naïn, qui a perdu aussi son petit garçon, pour Jaïrus, qui a perdu sa petite fille, pour Lazare, qui était déjà depuis plusieurs jours dans le tombeau. C'est Dieu qui entendra l'intercession de Jésus pour nous quand nous serons à la dernière seconde, en train d'affronter la mort. L'Éternel écouta Élie. L'Éternel a écouté Jésus pour nous. L'Éternel, par Jésus, écoutera aussi nos prières. La prière est notre incapacité. Elle fait que révéler qu'il y a un Dieu qui existe vraiment. C'est ma deuxième partie. Et on va aller un petit peu plus loin. La parole de l'Éternel est vraie parce que Dieu est vrai. Dans le sens qu'il existe réellement. Il y a un Dieu dans cet univers. Ne doute pas de ça. Il y a un Dieu vraiment qui est là. C'est le Dieu qui se révèle dans la Bible, qui se révèle par sa parole. Et donc, la parole de Dieu est vraie parce qu'elle est toujours conforme à la réalité, à ce que Dieu a décidé d'accomplir en lien avec qui il est, en lien avec ce qu'il a annoncé d'avance. Dans le cadre de sa volonté révélée, la Bible, on ne peut pas se tromper quand on prie. Parce que Dieu va faire en sorte que sa volonté arrive. Alors on est au chapitre 18, excusez-moi, et au verset 1. Et on continue l'histoire avec Élie, avec Akab qui reste obstiné dans son son péché loin de Dieu. Et au verset 1, on dit « Bien des jours passèrent. Et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. » 3 ans. Je ne sais pas si on réalise 3 ans de famine, de sécheresse. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Va te présenter devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » Élie partit pour se présenter devant Akab. Quand on prie, l'Éternel écoute. Et puis quand on prie, on développe la confiance. Ça fait que quand Dieu nous parle, on voit aussi Élie qui tergiverse pas. Dieu lui dit « Va voir Akab. » Il y va. Et la prière, elle est aussi en train de nous façonner à développer notre conscience, notre confiance envers Dieu. La famine était grande à Samarie. Alors, il y a la rencontre finalement avec Akab. On passe quelques versets encore là. Et puis, Akab, il accuse Élie. « C'est ta faute. C'est à cause de prophètes comme toi que Dieu est fâché. » Et au verset 18, Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. » Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de nuages, il n'y a pas eu un orage, il n'y a pas eu un coup de tonnerre, il n'y a pas eu de culture qui a poussé, tout est sec et décimé, c'est la famine. Et justement, le Dieu que Akab est en train, et tout le peuple d'Israël est en train d'adorer, c'est le Dieu de la fertilité. C'est le Dieu qui est censé faire tomber la pluie. C'est le Dieu qui est censé avoir le tonnerre dans sa main, comme Zeus là, hein, et puis qui envoie les tonnerres. C'est le Dieu qui fait pousser les récoltes. C'est le Dieu qui apporte la vie. Et ce culte était terrible parce qu'il était accompagné de tout un tas de débauches. C'était un culte facile pour au moins les hommes en Israël à cette époque-là, parce que ça allait de pair avec la prostitution sacrée. Donc, si on voulait encourager Baal à faire tomber la pluie, il fallait aller voir des prostituées sacrées, coucher avec elles, et ça, c'était censé plaire à Baal et à Astarté et faire que la pluie tombe. Vous voyez le genre de culte et de situation dans lequel se retrouve le peuple de Dieu à ce moment-là. Alors Élie, ou plutôt Dieu, a montré que pendant 3 ans, c'est quand même Baal et un rien du tout, quoi. C'est un nul. Excusez-moi, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de pluie. Et ils ont pu s'agiter dans tous les sens qu'ils voulaient, et puis Baal ne fait rien toujours. Mais si, imaginez, si maintenant la pluie revenait, on pourrait dire, ah ben voilà, Baal est revenu. Donc on continue comme avant, comme si de rien n'était. Donc il fallait quelque chose de clair pour attester que vraiment, il y a une alternative à Baal. La seule vraie, et c'est de mettre sa confiance en Yahweh, le Dieu véritable de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu qui existe vraiment. Alors, Élie demande à Akab de rassembler tous les prophètes. Donc, vous voyez, il y a 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui sont rassemblés dans le mont Carmel. Et Élie propose un deal au peuple. Il dit, ben maintenant, on va savoir qui est le vrai Dieu. Vous connaissez peut-être cet épisode. Cessez d'être boiteux. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et donc, on va faire quelque chose. On va faire un autel pour Baal et tous les 850 prophètes, là, ils vont prier leur Dieu en demandant que Dieu lui-même allume le feu sur l'autel, comme ça on verra. Après tout, Baal, c'est celui qui a le tonnerre dans sa main. C'est facile pour lui d'envoyer un éclair, de mettre le feu. Et moi, j'ai prié Yahweh avec un autel. Le Dieu qui répond, c'est celui qui est le vrai Dieu. C'est simple. Deux autels, deux sacrifices. Que le Dieu se révèle en allumant lui-même le feu. Et on lit alors verset 24. Vous pouvez suivre avec moi. Élie donc, il dit, « Faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. » Ça nous parle de la prière, d'accord? Vous restez sur les rails avec moi? Je suis en train de vous parler de la prière. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, « Ouais, c'est bien, faisons ça. » Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. Et là, ça devient franchement comique, n'est-ce pas? À midi, verset 27, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix !» Attendez les gars, vous êtes faibles là. Niveau décibels, vous n'allez jamais atteindre votre Dieu, quoi. Donc plus fort, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose. Ou bien il est occupé. Et selon les commentaires qu'on lit, soit c'est il est préoccupé par autre chose, ou alors ça peut vouloir dire aussi il est occupé, c'est-à-dire il est au petit coin. Et en fait, désolé, mais il n'est pas disponible pour le moment, quoi. Vraiment, c'est ça que ça veut dire. Et peut-être il est encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et il va se réveiller. Et il tilte pas, hein, les 850. Ouais, on va crier encore plus fort. Alors ils y vont, verset 28. Et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais, regardez, une nouvelle fois, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et maintenant, on voit Élie. Lui, il va prier le vrai Dieu. Et pour être sûr qu'il n'y a pas de nouveau, de tergiversation possible, je passe un peu l'histoire, mais vous savez, il construit un hôtel, il verse de l'eau dessus, il fait un fossé pour remplir, pour que ce soit détrempé le plus possible. Donc, situation impossible, quoi. Verset 33, plutôt verset 36. Donc il verse plusieurs fois de l'eau, et puis au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi je suis ton serviteur. Et j'ai fait tout ça sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » 5 mots, 6 mots ici, verset 38. Le feu de l'Éternel tomba alors. Comme tout à l'heure, Dieu écouta Élie. Verset 38, le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quel Dieu est-ce que nous sommes en train de servir? C'est ce même Dieu-là, le même Dieu de 1 roi 18, le seul vrai et unique Dieu. Et voyez tout ça, quel est le but de Dieu? Juste montrer ses pectoraux, montrer sa puissance? Non, c'est que toi, tu ramènes leur cœur vers toi. Ce que Dieu est après, c'est notre cœur. C'est la relation avec nous. C'est pas juste qu'on soit en train de tellement craindre parce que lui, il est tellement grand et puissant, mais il veut vivre quelque chose avec nous, il veut que nous soyons en communion. Et on l'a déjà vu avec Salomon, avec Jéroboam, le problème c'est le cœur. Et tout ça, ça sert le but, le dessein de Dieu, de ramener notre cœur, le cœur du peuple vers lui. Dans un premier temps, ça semble fonctionner. Quand ils virent cela, verset 39, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Juste quelques encouragements encore à propos de la prière dans ce passage-là. Dieu n'est pas limité par la géographie. Au Mont Carmel, on est sur le terrain de Baal. C'était là où il y avait un sanctuaire et c'est là où ils avaient l'habitude de faire leur sacrifice, etc. Ils jouent à la maison. Ils jouent chez eux. Ils ont tous les fans là qui sont là. Pour Dieu, c'est rien. C'est même sur le terrain de Baal, c'est lui qui gagne. Je sais pas quelle difficulté, quelle chose tu dois affronter. Peu importe le terrain où tu te trouves, pour Dieu, ça n'a aucune espèce d'importance. N'importe quel terrain où tu te trouves, c'est Dieu qui gagne. Regardez encore, Dieu n'est pas pressé, n'est pas obligé par notre agitation. voyez, tous les prophètes de Baal qui s'excitent dans tous les sens, qui gesticulent, qui sautent, qui crient, qui se font des, ils laissent des grandes traînées de sang partout, pour rien du tout. Et lui, il ouvre la bouche. C'est pas qu'il a fait, ouais, bah, Seigneur, je te prie, voilà, s'il te plaît, fais descendre. Certainement qu'il y avait de la ferveur, certainement qu'il était entièrement dans son cœur, en train de se tourner vers Dieu, de demander que, voilà, ça soit bien clair et manifeste, de voir le fruit de sa prière. Il s'attendait à ça. Mais en même temps, il s'agit pas, il est calme, il est juste résolu. Je vais prier Dieu. Je sais que Dieu m'entend. Des fois, on est un peu dans cette agitation-là. Si je prie, alors Dieu, il va faire ça pour moi. Si je fais ceci ou cela, alors Dieu, il va être de mon côté et je pourrai lui demander ce que j'ai envie. C'est pas comme ça. La prière, c'est beaucoup plus simple. On parle avec Dieu parce qu'on lui fait confiance. On parle avec Dieu parce qu'il est un Père céleste. On parle avec Dieu parce qu'il est capable quand nous, nous sommes incapables. On parle avec Dieu parce qu'il est bon et il veut faire des bonnes choses. Et voyez, Dieu n'est pas limité. Ils ont versé de l'eau, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ce soit humainement impossible d'allumer même la petite allumette sur, cet autel. Mais il n'y a pas d'obstacle. Comme pour la mort, il n'y a pas d'obstacle qui peut bloquer Dieu. Il y prie simplement, ardemment, si on peut se permettre le petit jeu de mots. Mais c'est Dieu qui intervient. On continue un petit peu et on arrive au verset 41. Après cela, Élie dit à Achab, monte, mangez et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Achab, le roi, monte, il mange, il boit. Il n'y a plus grand-chose, hein. C'est encore la famine, la pluie n'est pas encore tombée. Et lui, il mange, il boit. Et qu'est-ce qu'il fait Élie, le serviteur de Dieu? Il se retire, il continue à prier. Quant à Élie, verset 42, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. C'est la posture, n'est-ce pas, de quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, qui se met à genoux devant Dieu pour prier. Puis il dit à son serviteur, « Monte, regardez du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » De nouveau, on peut être un peu perplexe, comme avec cette femme, cette veuve à Sarepta. Et on continue, alors, la fin du verset 43. Élie dit sept fois à son serviteur, retourne voir. Donc, pendant plusieurs fois, il se remet à prier. Il prie, il prie, il prie. Puis, à un moment, il dit, écoute, va voir. Non, désolé, Élie, il n'y a rien. Ok. Seigneur, je t'en prie. Tu as dit que tu vas faire venir la pluie. Je te prie, fais venir cette pluie. Montre ta bonté, montre ta puissance envers ce peuple de nouveau. Va voir, s'il te plaît, mon serviteur. Élie, je suis désolé, il n'y a rien. Ok, je prie. Seigneur! Et pendant sept fois comme ça, Élie a cette persévérance, n'est-ce pas, dans la prière. Verset 44, la septième fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer, qui est la taille d'une pomme de main. Vous mettez ça dans l'horizon, ça paraît un peu minus, quoi. Mais Élie dit, ça y est. Ça, les amis, c'est la réponse de Dieu. Monte, dire à Achab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Tu as décidé que c'est maintenant. Alors c'est maintenant, il vaut mieux pas croire nos sentiments et nos émotions et ce qu'on voit avec nos yeux physiques, vaut mieux croire ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Il a dit qu'il va pleuvoir, alors là, sérieusement, ça va pleuvoir et vous allez voir qui est le Dieu qui intervient maintenant. Et en quelques instants, verset 45, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla, il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel et la main de l'Éternel reposa sur Élie qui noua sa ceinture, donc il relève son pantalon, il se fait un petit short, et il courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Sur quoi est-ce que Élie a basé sa persévérance? Élie, il a basé sa persévérance sur ce que Dieu avait dit. Puisque Dieu a dit qu'il allait faire ça, moi je peux venir l'importuner. Encore et encore, 7 fois, 70 fois, 7000 fois s'il faut. Parce que s'il a dit qu'il va faire ça, j'ai le droit de m'avancer devant lui et de lui demander de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, de tenir sa parole. Nous avons un Dieu qui est souverain, qui a décidé qu'il va faire pleuvoir, mais qui utilise la prière d'Élie, qui utilise des moyens nouveaux. Ça me fait penser à ce passage de Jésus, il dit « La moisson est grande ». On pourrait dire « Ben, ok, je vais la ramasser ». Non, il dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson ». Dieu souverainement agit, mais il le fait toujours en utilisant des moyens, et en particulier des moyens humains. Vous voyez, on peut être perplexe aussi comme Élie, parce que, et comme cette veuve, il y a diversité de réponses de Dieu. Pour la veuve, c'est une réponse quotidienne avec sa farine et son huile. Il y a des réponses exceptionnelles quand dans 1 Roi 18, où Dieu manifeste de façon extraordinaire sa présence. Il y a des réponses qui sont visibles par tous. Tout le monde a vu en 1 Roi 18 la réponse de Dieu. Il y a des réponses qui sont plus personnelles. Élie qui est en train de prier là sur le mont Carmel. On peut pas dicter à Dieu, il n'y a pas une seule case, il n'y a pas une seule manière dont Dieu intervient. Mais il y a une chose est sûre. Si nous nous humilions dans la prière, parce qu'il faut de l'humilité pour revenir 7 fois demander à Dieu quelque chose. Si nous cherchons l'adéquation de nos prières avec la parole de Dieu. Si nous prenons à cœur ses promesses et que nous les formulons en prière. Si nous faisons appel à Dieu selon ce qu'il a promis, non pas en inventant nos scénarios. Si nous prions les promesses pour qu'elles adviennent, alors on verra les réponses de Dieu. Et quel honneur Dieu nous accorde à participer ainsi à son plan. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des serviteurs. Même Jésus a dit, vous êtes mes amis parce que je vous ai révélé quelle est ma volonté. Et alors, comme des amis, nous prions avec notre ami qui désire voir sa volonté arriver. Nous prions pour que sa volonté se fasse. Et c'est ça qui peut soutenir notre persévérance dans la prière. J'ai une dernière partie, je vois l'heure qui avance, donc je vais faire vite. Mais après tout cet épisode, Élie, je vous invite à lire plus de détails vous-même, va vers Horeb au Sinaï, donc il va très très loin. Dieu l'invite en fait, Dieu lui donne toutes les ressources. C'est pas simplement Élie qui fuit pour sa vie, même s'il a le droit de faire ça, mais c'est surtout une invitation de Dieu qui l'amène au Sinaï. Et c'est juste pour dire que c'est Dieu qui initie la prière. Quand Élie arrive à Horeb, Dieu lui parle et lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Souvent, on a vu ça comme un reproche. On a vu Élie comme un homme qui fait une dépression et qui, d'un coup, centré sur soi, s'apitoie sur lui-même et va un petit peu, pardonnez-moi l'expression, pleurnicher devant Dieu. Mais en fait, non. Quand Dieu pose cette question, c'est « Ah, Élie, je suis content. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» C'est une invitation, en fait, de Dieu à le prier. C'est bien Dieu qui amène Élie à Horeb, au Sinaï, si vous relisez précisément le texte. Et c'est pas un lieu anodin, c'est le même endroit où Moïse est monté sur la montagne à la rencontre de Dieu. C'est le lieu où l'alliance avait été scellée. Donc dans l'histoire du salut, c'est un lieu important. Et en réalité, si vous regardez aussi précisément le texte, Élie ne parle pas à Dieu de sa situation personnelle, mais en fait ses intérêts sont centrés sur Dieu et sur l'alliance initiée et conclue au Sinaï. On peut lire ça, chapitre 19, verset 9. Là, Élie entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. » Vous voyez, il n'est pas en train de parler de son problème à lui. Il est concerné parce que Dieu continue d'être bafoué en Israël malgré tout ce qui a été révélé. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Et de nouveau, on voit Dieu qui écoute la prière d'Élie et qui lui répond. Il lui répond pas dans le fracas d'un feu, il lui répond pas dans le fracas d'un vent violent qui secoue la montagne. Mais il lui parle par son mode naturel, ordinaire, par sa voix. Et je sais pas quelle traduction vous avez pour ces termes ici, mais au verset 12, après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger, selon la seconde 21, mais en réalité, une voix paisible, un murmure. Il faut comprendre le mot voix dans ce. C'est pas juste un bruit, c'est la voix, la parole de Dieu. Elle est douce, elle est pas tonitruante, mais elle est là. Suffisamment perceptible pour que Élie se mette à sortir à ce moment-là et à venir à la rencontre de Dieu. Et Élie peut parler de nouveau à Dieu, répandre son cœur devant lui. Et Dieu connaît cette situation. Élie ne parle pas mécaniquement, mais avec passion. Et de nouveau, c'est une passion qui est centrée sur Dieu, sur le projet de Dieu et non sur ses intérêts à lui-même, à Élie. En un mot, Élie dit à Dieu, « Voilà ce que je vois, le peuple qui continue d'aller loin de toi. » Et Dieu lui répond, « Oui, c'est ça aussi que je vois. » Et il lui dit comment il va intervenir. Élie parle, expose la situation et Dieu répond. Une réponse qui va se faire dans le cours des années. L'alliance a été rompue et donc Dieu va juger son peuple, c'est la fin du chapitre. Il va susciter des Assyriens justement pour emmener en exil, il va susciter Jéhu. Il va susciter Élisée pour que la parole puisse continuer à être entendue dans le peuple de Dieu. Donc il va juger son peuple, mais il va aussi faire grâce à un reste pris parmi son peuple. C'est la fin du chapitre 19, le verset 18. Je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Dans tout ce que j'ai voulu partager ce matin, je voulais vous montrer, vous amener à voir avec moi comment Élie a prié Dieu. Élie n'était pas un homme super, extraordinaire, différent de nous. La Bible l'affirme dans Jacques au chapitre 5. Il était un être tout comme nous. Il a prié, même dans son incapacité. Et justement parce qu'il y avait plein d'incapacités, comme nous-mêmes nous rencontrons plein d'incapacités. Mais ça ne dépend pas de nos capacités, ça dépend de Dieu qui est réel, qui entend et qui peut intervenir. Il a prié avec humilité, il a prié avec persévérance, il a prié en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Il a prié en s'investissant personnellement, en se mettant dans la situation, en répandant son cœur devant Dieu. Et Dieu l'a écouté. Alors si vous retenez juste une chose en quittant ce matin, pour cette semaine, prions parce que Dieu écoute. Je vous invite à quelques instants de silence pour laisser cette parole descendre un peu dans nos cœurs.